Merci Anaël et bonjour à tous et à toutes. Je voudrais commencer ce temps de prédication par une question cruciale que l'on se pose tous ou presque en ce moment, qui est la suivante. Gilet jaune ou foulard rouge ? Cette prédication va nous aider à la fin à trancher. Non, pas du tout en fait. Je suis désolé, je suis navré. Quoique, peut-être. Je sais pas, moi je suis parfois plus drapeau blanc. Mais c'est un petit clin d'œil à l'actualité que je fais en début de prédication, simplement parce que je crois que ce qui se passe actuellement dans notre pays, ces mouvements qu'il y a, posent une question qui est une question relativement profonde, qui est celle de notre relation avec les autorités. Qu'est-ce qu'on attend d'elles ? Comment est-ce qu'on peut interagir avec elles ? Et quelles sont les relations que l'on peut entretenir de manière à avoir des relations avec ces autorités qui sont des relations saines ? Comment faire en sorte de pouvoir communiquer les uns avec les autres, de pouvoir faire en sorte que, dans le cas de la société, un pays puisse avancer, progresser de génération en génération ? Et en réalité, sur ce sujet-là, dans le cadre de l'Église, Dieu ne nous a pas laissés au dépourvu. Dieu ne nous a pas laissé décider les choses d'une manière individuelle, autonome. Il a voulu instaurer dans l'Église, un modèle de relation entre la structure d'autorité que Dieu lui-même a mis en place, que l'on appelle les responsables d'Église ou les anciens des Églises, c'est synonyme, donc j'emploierai indifféremment les deux mots, les responsables de l'Église, et puis les membres de l'Église. Comment vivre ? Comment entretenir des relations qui sont des relations saines entre les autorités dans l'Église que Dieu a mises en place et les membres, de manière à garantir au mieux la santé et la pérennité de l'Église ? Ça fait maintenant 3 mois, et je le redis pour les personnes qui nous rejoignent ce matin, mais ça fait 3 mois maintenant, presque jour pour jour, qu'on a entamé une série d'études sur la première lettre de Paul à Timothée. Et on en est aujourd'hui en 1 Timothée chapitre 5, et on va étudier ensemble les versets 17 à 25, sur lesquels on va apporter une attention plus particulière. 1 Timothée 5, versets 17 à 25. On regardera aussi un petit peu plus rapidement les versets 1 et 2 du chapitre 6. Et le texte dont on va parler ce matin va aborder justement cette question des relations entre l'Église et ses responsables. Quelles doivent être ces relations ? Donc si vous êtes de passage parmi nous et que vous êtes membre d'une Église autre, cette prédication vous concerne aussi, nous concerne tous en réalité. Et le titre que j'ai donné à cette prédication, c'est « Quelle est l'attitude que doit avoir l'Église envers ses responsables ?» Et un sous-titre, peut-être, qui serait « En réalité, c'est une question d'honneur. » C'est une question d'honneur. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles, gardez ce texte devant vous, s'il vous plaît, en 1 Timothée, chapitre 5, les versets 17 à 25. Je lis. Les responsables qui dirigent bien l'Église méritent des honoraires doubles, notamment ceux qui se dévouent au ministère astreignant de la prédication et de l'enseignement. Car l'Écriture déclare « Tu ne mettras pas de muselière au bœuf qui foule le grain, et encore, l'ouvrier mérite son salaire. » N'accepte pas d'accusation contre un responsable d'Église si elle n'est pas appuyée par 2 ou 3 témoins. Ceux qui ont péché, reprends-les devant tous, afin que cela inspire de la crainte aux autres. Je te conjure solennellement devant Dieu, devant Jésus-Christ et ses anges élus, d'observer ces règles sans parti pris ni favoritisme. N'impose pas trop vite les mains à quelqu'un et ne t'associe pas au péché d'autrui. Conserve-toi pur. Tu ne devrais pas boire exclusivement de l'eau. Prends un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquents malaises. Il y a des personnes dont les fautes sont évidentes avant même qu'on les juge. Pour d'autres, on ne les découvre que par la suite. Il en est de même des bonnes actions. Chez certains, elles sont immédiatement apparentes, mais là où ce n'est pas le cas, elles ne sauraient rester indéfiniment cachées. Ce texte nous donne en réalité 3 clés qui vont garantir des relations saines entre les membres d'une église et ses responsables. La première clé, c'est il mérite l'honneur. La deuxième clé, c'est s'ils sont dans une situation de péché, ils doivent être disciplinés. Et la troisième clé, c'est avant de choisir les anciens, patience, sagesse et discernement. Voici les trois clés et je vous invite ce matin à ce qu'on puisse étudier ensemble ces trois clés. Et je vais passer peut-être plus de temps sur la partie sur l'honneur. C'est pas parce que je suis partie prenante, mais c'est parce que peut-être on a un peu plus de mal à comprendre aujourd'hui, au XXIe siècle, ce que c'est que l'honneur. Et en tout cas, l'honneur dont l'apôtre Paul ici parle. Paul dit à Timothée que les responsables d'église qui dirigent bien méritent, dans cette traduction, c'est marqué même honoraire. Alors c'est pour ça qu'on va tout de suite faire passer les paniers de l'offrande. Les chèques sont adressés à notre nom individuel pour l'équipe d'anciens. Non, détendez-vous. C'est justement pas précisément de ce genre de choses, quoique, dont l'apôtre Paul voulait parler. Ce mot honoraire, en fait, il paraît presque choquant. Quand on prononce ce mot honoraire, on se dit, mais en fait, c'est comme si un ancien ou un responsable d'église accomplissait une sorte de prestation et puis il envoie une facture et puis voilà, il y a des honoraires à payer. On est désolé, mon brave monsieur, ma brave dame, vous avez reçu un conseil pastoral, donc vous devez des honoraires. On a un peu cette sensation-là, mais le mot honneur, honoraire, et dans vos traductions, peut-être c'est traduit par honneur. En réalité, ces deux traductions, honneur et honoraire, sont assez synonymes et apportent des choses qui sont assez complémentaires même. Le mot honneur, il signifie donner une grande considération, c'est-à-dire respecter, c'est-à-dire prendre soin du responsable d'église, parce qu'il est responsable de l'église, c'est son office, c'est lié à l'autorité que Dieu lui-même lui a délégué. L'autorité que Dieu a conférée à l'ancien mérite pour cette personne-là un grand honneur de la part des membres de l'Église. Et pour essayer de mieux comprendre ce mot honneur, parce que c'est quelque chose qui est limite perturbant dans ce texte, honoraire, c'est intéressant de regarder le contexte proche de ce texte et de regarder le texte qui précède, que Stéphane a prêché la semaine dernière. Et le texte qui suit juste et qui est inclus en réalité dans cette prédication, ce sont les deux premiers versets de 1 Timothée chapitre 6. Et dans le texte qui précède, on l'a vu avec Stéphane la semaine dernière, il est question en 1 Timothée chapitre 5 verset 3 de rendre honneur aux veuves. On a vu que c'était de la charge de l'Église d'honorer ses veuves, en particulier celles qui, compte tenu de leur statut, de s'être libérées, une forme de temps en fait, malgré elles, ont décidé de consacrer ce temps au service du Seigneur. Elles méritent l'honneur. Et cet honneur contenait une part matérielle. Il y avait une part financière et matérielle qui était derrière ça. Si vous regardez dans le texte qui suit et que j'affiche ici, en 1 Timothée chapitre 6, versets 1 et 2, voici ce qu'il est dit dans le cadre des relations que devaient entretenir les maîtres et les esclaves. C'est le texte qui vient juste après celui qu'on a lu. Les croyants qui sont esclaves doivent considérer leur maître comme ayant droit à tout leur respect. C'est le même mot que honneur. Ils éviteront ainsi que le nom de Dieu soit blasphémé et notre enseignement dénigré. Que ceux qui ont des maîtres croyants ne leur manquent pas de respect sous prétexte qu'ils sont des frères. Bien au contraire, qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des croyants bien-aimés qui bénéficient du bienfait de leur service. Le mot honneur est un mot connecteur. Dans le texte qui précède, dans celui qu'on étudie aujourd'hui plus profondément, et dans le texte qui suit, honneur, honneur, honneur. Et il y a quelque chose de noble, quelque chose qui glorifie le Seigneur lorsqu'une église honore ses responsables. Qu'est-ce qu'on doit comprendre à travers cette expression double honoraire? Est-ce que ça veut dire payer deux fois plus? Auquel cas, à chaque fois qu'on se rencontre, on multiplie par deux le salaire. Honoraire double. Double honneur. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'en réalité, l'ancien en tant qu'ancien, le responsable d'église, parce qu'il prend cette charge-là, parce qu'il est ancien, parce qu'il est responsable d'église, mérite cet honneur. C'est la première part, je dirais, de l'honneur. Et la deuxième part, c'est qu'il y a une compensation adaptée. C'est que, en particulier pour ceux qui ont décidé de consacrer leur temps à ça, il y a un honneur à les rétribuer. Il y a un honneur pour l'Église et ses membres de prendre soin de la fonction en tant qu'ancien et de prendre soin aussi du matériel, du fait que cette personne-là ne manque pas. Honorer sa charge, son autorité, et lui donner une compensation adaptée. C'est ce qui était dit pour les veuves. Les veuves doivent avoir une compensation qui est adaptée aussi au fait qu'elles ont décidé de consacrer leur veuvage à servir l'Église. Dans l'église locale d'Éphèse, dans laquelle était Timothée, il n'y avait pas de salariés de l'église. Il n'y avait pas de personne qui était à plein temps. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que très probablement, en embrassant leur ministère de responsable d'église, ils étaient amenés à faire des sacrifices qui étaient sans doute de temps, d'énergie, et puis aussi d'argent. Et il devait y avoir une juste compensation de ce sacrifice. Et vous savez quoi? Que l'Église pourvoie à cette compensation, c'est un honneur que l'on rend. Et c'est noble de rendre honneur. Concrètement parlant, dans notre Église, un seul ancien est à plein temps et soutenu financièrement par l'Église. Les autres anciens ont décidé de garder un emploi séculier. Et c'est le cas d'une très grande majorité de responsables d'Église, en France du moins. Et qu'est-ce que cette notion de compensation adaptée peut bien vouloir dire quand, au final, on travaille à l'extérieur et qu'on n'est pas à plein temps, on ne consacre pas la totalité de notre agenda au service de l'Église? Quelle est la contrepartie? Je pense que la compensation dont Paul parle ici est vraiment une compensation qui est liée à l'exercice du ministère. Et il me semble que les responsables d'Église doivent veiller à ce que, il me semble que l'Église, pardon, les membres de l'Église doivent veiller à ce que leurs responsables d'Église, qu'eux-mêmes ont nommés, qu'ils ont choisis, ne manquent pas et aient les conditions nécessaires de manière à accomplir leur ministère. Il faut que s'il y a des sacrifices qui sont forts, des décisions qui sont prises en commun accord avec l'ensemble de l'Église, il faut que l'Église soutienne cela. C'est bien pour ça qu'il y a des assemblées générales, c'est bien pour ça qu'il y a un lien avec un conseil d'administration dans l'Église, c'est bien pour ça qu'il y a des décisions, une vision, qui est imprimée par l'équipe d'anciens. Mais des sacrifices, ils en font, et ça ne doit pas conduire à un manque en ce qui concerne le nécessaire, pas le superflu, le nécessaire. Et les responsables de l'église d'Éphèse étaient sans doute amenés à faire des coupes franches dans des choses qui les amenaient à se priver du nécessaire. Et il fallait compenser. Et c'est un honneur. Ce n'est pas un poids. Même si, évidemment, cette compensation financière implique que l'argent arrive de quelque part. Mais c'est un honneur. Il faut le prendre comme tel, et c'est ce que la Bible nous enseigne. Ça ne veut pas dire que les responsables doivent rouler sur l'or. Ça veut dire qu'il faut qu'ils aient juste ce qu'il faut. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 30, les versets 7 à 9, je vous lis une prière. Éternel, je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Garde-moi de la fausseté et du mensonge. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi seulement la nourriture nécessaire, car dans l'abondance, je pourrais te renier et dire « Qui est l'Éternel ?» Ou bien, pressé par la misère, je pourrais me mettre à voler et déshonorer mon Dieu. Proverbe 30, versets 7 à 9. Et je crois vraiment que cette prière, elle rentre dans ce cadre-là. C'est une mission de l'Église à veiller, que l'Église a de veiller à ça pour ses responsables. Et c'est évidemment d'autant plus vrai pour celui qui a répondu favorablement à l'appel de Dieu pour le servir à plein temps. Lui aussi, il a été nommé par l'Église, qui s'engage donc à l'honorer. Et je suis vraiment content que dans notre Église, le conseil d'administration a un œil particulier sur ce sujet et donc respecte cette ce commandement biblique d'honorer, double honneur, y compris du point de vue matériel, de manière à ce que Raph, qui est à plein temps dans l'Église, puisse avoir ce dont il a besoin pour accomplir correctement son ministère et sans forcément se préoccuper sans arrêt de savoir qu'est-ce qu'il va manger demain, quoi. Parce que ça, c'est une honte. Et on leur trouve cette honte, parfois, quand on circule et qu'on discute avec différents serviteurs de Dieu qui ont été choisis par des églises et qui ont été consacrés dans des églises. Ce texte est clair, c'est un honneur. Et on se doit de le faire. Ce sont les membres de l'Église qui doivent le faire, l'ensemble de l'Église qui doit contribuer à ça. Et c'est honteux, parfois, de voir, par exemple, que les serviteurs du Seigneur dans des églises jouent le concours de la plus moche voiture de tout l'univers. Et c'est honteux, c'est déshonorant. C'est déshonorant au sens propre du terme, comme le dit ce texte. C'est un ministère astreignant, une charge, que celle d'être responsable d'église. C'est quelque chose de rude, d'éprouvant, en particulier parce qu'ils sont garants de la pureté de l'enseignement de l'Église et de sa conduite. C'est la charge de l'ancien, le ministère de la parole et la conduite de l'Église. Et les deux ne sont pas indépendants. On conduit l'Église aussi par le ministère de la parole, par un enseignement qui est adapté, qui n'est pas forcément un enseignement public, qui peut être un enseignement individuel, privé. Les anciens ne doivent pas forcément tous avoir le don de l'enseignement par la prédication, mais ils doivent tous être aptes à enseigner l'Église de manière à la conduire. C'était un vrai problème dans le contexte d'Éphèse, la pureté de l'enseignement. On sait que les responsables d'Église à qui Paul avait consacré du temps, pendant 3 ans, il les avait formés un à un, nous dit le livre des Actes. Il les avait pris à part un à un et il les avait formés. Il avait fait du détail. Et pourtant, 6-7 ans plus tard, au moment de la rédaction de cette lettre, l'enseignement a dérivé. La pureté de l'enseignement, et j'allais dire, il ne peut pas y avoir bien plus pur enseignement que celui de Jésus-Christ et celui de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament. La pureté de l'enseignement a, fur et à mesure, dérivé. Pourtant, il avait passé 3 années entières à le faire. Donc, ça arrive. Quelles en sont les raisons précises? Il y a un panel de raisons qui nous est donné dans la lettre et je ne vais pas les rappeler ici. Vous pourrez réécouter des prédications sur le site internet de l'Église si vous le voulez. Pour appuyer son propos, Paul va donner 2 images révélatrices. La première, elle peut paraître pas très gratifiante, c'est celle d'un bœuf. Et la deuxième, c'est celle d'un ouvrier. Et en fait, il fait appel à 2 poids lourds de la Bible, Moïse et Jésus. Moïse et Jésus. Et Moïse, qui dit que tu n'en muselleras pas, tu ne mettras pas de muselière au bœuf qui foule le grain, et Jésus qui a dit l'ouvrier mérite son salaire, tout simplement. Et il y a une sorte de forme logique. Tu travailles dur dans ce ministère, donc tu as une compensation qui est logique, légitime. C'est normal. C'est normal. Le ministère de l'ancien est dur. Protéger l'Église, l'enseigner, la conduire, ça demande des sacrifices qui sont des sacrifices considérables, qui ont des conséquences sur absolument tous les domaines de notre vie. Parce qu'on a cette conscience qui est souvent écrasante, que l'Église que l'on conduit, c'est celle du Seigneur. Et qu'un jour, nous aurons des comptes à rendre. Et c'est un ministère qui est difficile, qui est dur. Nos frères qui ont quitté l'ancienat récemment après des années de ministère fidèle pourraient en témoigner beaucoup, beaucoup plus et beaucoup, beaucoup mieux que moi de la dureté de l'exercice de ce ministère. Et pour en revenir à ces 2 images, celle du bœuf et celle de l'ouvrier, on voit que les honorer, ça a un vrai intérêt. L'intérêt, c'est que le bœuf va continuer à travailler la terre. Il ne va pas nous laisser sur le côté en disant « ouais, après tout, de toute façon, puisque je ne peux pas manger le grain en même temps que je passe la charrue ». Et puis l'ouvrier va travailler d'autant mieux qu'il est rémunéré justement pour le travail qu'il accomplit. Les 2 vont donner satisfaction et vont être dans une attitude positive. En fait, tout le monde a intérêt à ce que les responsables d'église soient honorés. Les anciens peuvent exercer leur ministère dans de bonnes conditions, avec joie, et l'église qui se retrouve au bénéfice de ce ministère. Tout le monde a intérêt à ça. On retrouve exactement la même idée de cet intérêt noble, honorant, lorsqu'on lit un texte dans Hébreux 13, 17, ne le prenez pas, je vous le lis. « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vous en sachant qu'ils devront un jour rendre des comptes à Dieu pour leur service. Qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leur tâche avec joie et non pas en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Ça ne vous serait d'aucun avantage. Voilà ce que dit la parole de Dieu en ce qui concerne un service qui serait forcé, qui serait laborieux, ou plus précisément, injuste, parce que le labeur est là, la dureté est là, mais il doit y avoir une juste compensation. En fait, ce que recommande Paul ici, ce respect qui est dû aux responsables, est préventif. C'est préventif à bien des égards, parce que il peut y avoir des problèmes qui arrivent dans des églises et qui nécessitent notamment la discipline. Et la discipline au plus haut niveau. Je ne sais pas si vous connaissez ce proverbe qui dit que on se l'est rappelé cette semaine avec Raph, le poisson pourrit par la tête. C'est pas... Avant d'aller manger, c'est pas terrible. Mais le poisson pourrit par la tête. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Ça signifie qu'en réalité, souvent, les choses attaquent par les autorités, par ce qu'on considère comme étant l'autorité, la responsabilité, un conseil d'administration d'une entreprise, etc., etc. C'est là qu'en fait la gangrène attaque. Et quand la gangrène attaque à ce niveau-là, ça fuse et toute l'Église est en péril. Si ça attaque au niveau du groupe d'anciens, du groupe de responsables, c'est l'ensemble de l'Église qui est en péril. Les anciens, ils sont disciplinables. S'ils sont dans une situation de péché, ils doivent être disciplinés. Mais l'apôtre Paul savait très bien que lorsque l'on est en responsabilité, lorsqu'on est en position affichée, on est des cibles privilégiées. Et il commence par un avertissement qui pourrait se résumer par la chose suivante. Quand on vient te voir pour accuser un responsable d'église, sois prudent. Vas-y doucement, prends le temps, ne t'emballe pas. Et il dit ni plus ni moins que ce qui était enseigné par Jésus en Matthieu 18, en disant tu commences par deux ou trois témoins, d'accord ? C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir une seule personne, il doit y avoir plusieurs personnes. Et on prend le temps pour ça, parce que évidemment ils sont mis en position, ils sont en avant, ils sont amenés à prendre la parole, ils sont amenés aussi à pratiquer eux-mêmes la discipline dans l'Église. Ça les affiche. Quand on est ancien, on n'a pas que des amis. Malheureusement. Et c'est quelque chose de dur. La conduite de l'Église amène parfois à discipliner, à enseigner ce que la Bible dit et ne nous plaît pas toujours. On ne se fait pas que des amis. Et même si on le fait avec amour, on est amené à reprendre des situations de péché de manière à essayer de conserver l'Église la plus pure possible. Et c'est ce que Paul disait à Timothée, s'il te plaît, conserve-toi pur. Conserve-toi pur. Et quand on est ancien, on prend facilement des coups. Et c'est Jean Calvin qui a donné un témoignage vraiment émouvant dans son ministère qu'il a exercé à Genève. Et voici ce qu'il disait en ce qui concerne son ministère donc d'homme d'église à Genève, de responsable d'église à Genève. Dès qu'une accusation est portée contre un ministre de la parole, on la croit aussi sûrement et fermement que si elle avait été prouvée. Cela se produit non seulement parce qu'un niveau d'intégrité plus élevé est exigé de leur part, mais aussi parce que Satan rend la plupart des gens, en fait presque tout le monde, incrédules. Ainsi, sans enquête, ils condamnent avec empressement leur pasteur dont ils devraient défendre le nom. Il faut prendre le temps de les discipliner. Prendre le temps parce que ce sont des cibles faciles. Mais s'il y a une situation de péché qui concerne l'un des anciens, et c'est bien de ça dont ce texte parle ici, ils doivent être disciplinés, au même titre que tout chrétien de l'Église. Ils doivent être disciplinés. Et il n'y a pas de passe-droit. L'ancien n'est pas en-dessus du lot, il n'est pas hors du lot de cette discipline qui doit s'exercer dans l'Église. S'il est dans une situation de péché, ancien ou pas, il doit être repris, il doit être discipliné. pour une raison précise que l'apôtre Paul donne ici, de manière à ce que les autres soient dans la crainte. La frousse. C'est dur comme texte. J'ai mis un temps incroyable à préparer cette prédication parce qu'à chaque fois, j'étais plombé par ces choses-là. Plombé. Parce que c'est dur. Le péché n'a pas sa place dans l'Église et encore moins parmi ses responsables. Et je voudrais juste vous lire, si vous voulez tourner quelques pages de vos Bibles, allez dans le livre des Actes, au chapitre 5. Lire la fin d'une histoire que ceux qui sont coutumiers de la Bible connaissent assez bien, c'est celle d'Ananias et Saphira. Je vous résume simplement ce qui s'est passé très rapidement. Ananias et Saphira étaient un couple dans la première église qui a été fondée, on va dire, au niveau de Jérusalem. Et ce couple-là avait à cœur de vendre un champ. Ils étaient propriétaires d'un champ. Ils avaient à cœur de vendre un champ et de donner la totalité du produit de la vente de ce champ à l'église. On donnera tout. Et puis ils vendent ce champ. Ils reçoivent le produit de la vente et ils ne donnent pas tout. Ils avaient pris la décision libre de donner la totalité du prix de vente de ce champ. C'était libre, ils n'avaient pas été forcés. D'accord ? Et ils en ont gardé une partie pour eux. Et Dieu les discipline d'une manière qui est terrible, raide, mort. En public. Et si vous regardez Actes 5, verset 11, quelle est la conséquence de ça ? Cet événement inspira une grande quinte à toute l'Église ainsi qu'à tous ceux qui en entendirent parler. Tu m'étonnes. Vous imaginez les bruits qui pouvaient circuler à ce sujet de cette Église ? Fais gaffe, ils sont radicaux là-bas. Tu entres dans l'Église, tu ne sais pas si t'en sors. La crainte, la peur. Au verset 13. Acte 5, verset 13, on le voit encore. Ils avaient même peur de se joindre à eux. Ils y allaient en tremblant dans cette église. Ils avaient peur. Aujourd'hui, on dirait, waouh, si tu appliques la discipline. Alors évidemment, il n'est pas question de faire mourir les gens, on est bien d'accord. Hein, c'est une situation très particulière et Dieu lui-même a exécuté cette sentence. Mais on dirait aujourd'hui, mais attends, si tu appliques cette discipline, tu vas vider l'église. T'es fou. Il n'y a plus personne qui va venir. Regardez, à la fin du verset 13, la première conséquence de l'exercice de cette discipline. Le peuple, tout entier, les tenait en haute estime. Ah, mais moi, ça m'épate. La parole de Dieu m'épate. On peut se dire, ils sont tous partis, ils sont tous dispersés, c'est le début de la diaspora, etc. Non, non, non. Le peuple tout entier les tenait en haute estime. Et regardez le verset 14. Un nombre toujours croissant d'hommes et de femmes croyaient au Seigneur et se joignaient à eux. Ils sont fous. Non seulement cette discipline qui a été exercée a témoigné, ils étaient en haute estime, mais en plus de ça, elle a fait grandir l'Église. Elle a fait grandir l'Église. C'est incroyable. Et c'est pourtant bel et bien ce qui s'est passé. On se doit d'exercer la discipline. Et c'est un vrai témoignage. Et c'est une source de croissance pour l'Église. Il y a un enjeu qui est tellement fort à ce sujet. Regardez les mots que Paul emploie envers Timothée. Parce qu'il sait que c'est dur, parce qu'il sait que quand on voit des personnes, on a plus envie de les encourager que de les reprendre. Ça coûte. Alors il emploie les mots. Je t'en conjure solennellement. Je t'en conjure solennellement. Et c'est fort parce que c'est dur d'exercer la discipline. Et regardez qui est-ce qu'il prend comme témoin. Dieu, Jésus-Christ et les anges élus. Dieu, Jésus-Christ et les anges élus. Et il y a un enjeu impérieux à exercer la discipline dans une église parce que Dieu, Jésus-Christ et les anges élus en sont témoins. Ils voient ce qui se passe. L'enjeu ici, c'est encore une question d'honneur. Pas l'honneur des hommes, mais l'honneur de Dieu et de son Église. Dieu, Jésus-Christ et les anges élus sont témoins de ça. Et pour terminer plus rapidement, Paul continue et termine ce passage à Timothée de sa lettre en disant, en parlant du choix des anciens. Il commence à donner des conseils pour nommer les anciens. Et le premier conseil qu'il donne, c'est « ne va pas trop vite ». Compte tenu de tout ça, compte tenu du fait qu'il y a un honneur à donner aux anciens, qu'il y a une rétribution à donner aux anciens aussi, selon les circonstances, vous l'aurez bien compris, qu'il y a aussi une discipline à exercer en priorité par rapport à l'autorité, par rapport à toutes ces choses-là, ne va pas trop vite avant de nommer un ancien. Prends le temps. N'impose pas trop vite les mains. Ne t'associe pas au péché d'autrui, parce que c'est ça la conséquence, en réalité, si ça se passe mal. Conserve-toi pur. Il y a des personnes dont les fautes sont évidentes avant qu'on les juge, et pour d'autres, on ne les découvre que par la suite. C'est-à-dire, il y a toujours cette notion de prendre le temps de découvrir les fautes éventuellement. Prendre le temps au risque de faire une erreur dans le choix. Et il y a quelque chose d'intéressant. Personnellement, je ne l'avais jamais vu vraiment profondément. Il y a aussi cette nécessité de prendre le choix au risque de se tromper dans un non-choix. On peut louper un ancien en puissance parce que son caractère, ses dons ne sont pas exposés au public. Ils sont cachés. C'est un ancien en sommeil. C'est un ancien qui est là, peut-être discret, introverti, qui a des qualités qui manifestent le caractère de l'ancien. Et sur ce caractère de l'ancien et les attributs d'un ancien, je vous renvoie à la prédication que Daniel a donnée il y a quelque temps dans le cadre de cette série sur 1 Timothée au chapitre 3. Elle est sur le site internet de l'Église aussi, vous pourrez l'écouter. Mais il peut y avoir un risque d'erreur, y compris dans le cadre d'un non-choix. On peut se tromper en ne voyant pas en tel ou tel frère un ancien. Et là aussi, il faut prendre le temps et pas se fier aux apparences. Et je termine l'étude de ce texte avec ce verset. Alors lui, il a fait couler de l'encre. C'est étonnant. En plein milieu de quelque chose, il y a une tension énorme dans ce texte, la responsabilité de l'Église par rapport à ses responsables. Et puis d'un coup, une sorte de page de publicité sur consommation modérée d'un petit peu de vin, de manière à ce que tu te portes bien. Fin de page publicité, allez, next. On enchaîne. Et c'est étonnant. Et il y a des commentateurs qui disent même que ce verset est mal placé. En fait, il a été mis là parce qu'il ne savait pas trop où le mettre, etc., etc. C'est une aberration. Et vous savez, dans ma préparation de cette prédication, je me suis arrêté. Et comment j'ai remercié le Seigneur d'avoir placé le verset là. Alors, je ne suis pas descendu prendre un petit peu de vin au moment où j'étais dans mon bureau. Mais franchement, j'ai été ému par ce verset. J'ai été ému par ce verset. Vous vous rendez compte de ce que Timothée a dû faire à l'église d'Éphèse ? Au chapitre 1, corriger les doctrines erronées et combattre le bon combat. Au chapitre 2, régler la question du rôle des femmes dans l'église. Au chapitre 3, nommer des anciens et des diacres qualifiés. Au chapitre 4, corriger des fausses doctrines de démons qui avaient infiltré la communauté, faire face à des personnes qui méprisaient sa jeunesse en même temps. Chapitre 5, réprimander des vieillards, réprimander des jeunes gens, réprimander des femmes âgées, trier les veuves qui avaient de vrais besoins de celles qui n'en avaient pas pour les aider. Et maintenant, Paul lui dit, cerise sur le gâteau, tu vas aller voir les anciens et tu vas les discipliner. Et là, Paul lui dit, tu sais quoi, tu vas prendre un petit peu de vin. Vous avez vu le mal dont il souffrait, Timothée ? Des fréquents maux d'estomac. Il y avait des vertus, on les trouve dans différents textes. Il y avait des médecins à l'époque qui donnaient une vertu vraiment à la consommation modérée d'un petit peu de vin, sans doute aussi à cause de la qualité de l'eau à l'époque qui était plutôt moyenne. Et sans doute aussi parce que ça devait soigner. Et Paul, ici, lui donne cette recommandation. Tu ne devrais pas boire que de l'eau, prends aussi un petit peu de vin, parce que c'est nécessaire que tu prennes soin de toi. La charge qui t'incombe nécessite que tu prennes soin de toi. Soigne-toi. Prends soin de toi. Et je suis émerveillé de voir tout l'amour au milieu de l'hécatombe d'Éphèse, au milieu de ce chapitre avec honoré, discipliné, etc. D'un coup, cette parenthèse en disant « Timothée, prends soin de toi. Conserve-toi pur et soigne-toi. » Parce qu'on a besoin de toi en état de fonctionnement, en bon état de marche. Le double honneur des anciens, c'est quelque chose de préventif. La discipline, c'est curatif. Et c'est ce double honneur qui est dû aux anciens, c'est souvent préventif parce que pour éviter de rentrer dans ce processus de discipline, et que dire du choix des anciens et de la patience, la sagesse et le discernement qui est nécessaire, qui sont aussi une forme de prévention, de manière à éviter d'avoir à exercer cette discipline. Je voudrais nous donner simplement trois questions qui serviront d'application aussi, que l'on pourra prendre à titre individuel et on pourra les décliner comme on le souhaite. La première question, c'est est-ce que j'honore les responsables de mon église ? J'ai envie de faire une sous-question. Est-ce que j'ai une église ? Est-ce que je suis membre d'une église ? Parfois, on rencontre et on est régulièrement dans notre ministère d'anciens amené à rencontrer des chrétiens papillons. Bon, une église, puis une autre, puis une autre, puis une autre, etc., etc. Mais en fait, au moment où on leur demande « Mais alors, qui sont tes anciens ? Qui sont tes responsables ?» Ben, on ne sait plus. Alors, comment vous voulez honorer ? Comment vous voulez discipliner ? C'est impossible, puisqu'on n'a pas d'anciens. Est-ce que j'honore les responsables de mon église ? Est-ce que je respecte leur autorité ? Est-ce que je veille à ce qu'ils puissent exercer leur ministère dans de bonnes conditions ? Deuxième question, est-ce que je les protège quand il y a des commérages, des discussions qui débutent et qui dérivent vers des accusations ? Est-ce que je les veille en prenant des nouvelles ? Et le cas échéant, est-ce que je suis prêt à les discipliner en discutant avec les autres responsables d'église, en allant les voir, en lui disant « Écoute, là, mon frère, manifestement, tu es dans une situation de péché. » Et enfin, est-ce que je prie pour l'avenir de l'Église ? Est-ce que je prie pour l'avenir des anciens, des responsables de notre Église, pour leur renouvellement, que Dieu prépare d'ores et déjà une relève et qu'il nous aide ensemble en Église à faire ce choix d'une relève qui viendra un jour ou l'autre ? Mais ça se prépare maintenant, puisqu'il faut prendre le temps. C'est maintenant qu'il faut commencer à préparer cette relève. Et je termine avec ce témoignage de Léo Schuster. Léo Schuster, c'est un pasteur qui a été nommé pasteur dans une église à New York, l'église dont le pasteur principal est Tim Keller. Et voici ce que Léo Schuster, en 2010, au moment où il a été embauché, salarié, nommé pasteur dans cette église, voici ce qu'il a écrit dans le bulletin, après avoir dit qu'il était très content d'être dans l'église et d'être... Enfin voilà, de pouvoir servir dans cette église. Il écrit dans le bulletin de l'église la chose suivante. Je termine avec un avertissement très important. Je vais vous décevoir. Je vais vous décevoir. N'est-il pas réconfortant de constater que le ministère ne consiste pas à former des gens formidables qui font de grandes choses ? Il s'agit de personnes brisées et profondément imparfaites qui découvrent le pouvoir de l'Évangile et vivent ensuite chaque jour en étant désespérément dépendants de lui, parce qu'elles savent que leur vie en dépend entièrement. Je vous rejoins comme un tel homme. Les responsables d'une église ont besoin de l'Évangile. Ils vont vous décevoir. Quelle que soit votre église, ils vont vous décevoir, inévitablement. Mais vous savez, ce sont des hommes qui sont au bénéfice de cet Évangile. Ce sont des hommes qui ont été rattrapés par le col, par la grâce du Seigneur, et qui ont eu à cœur que le Seigneur a porté à cette responsabilité-là. Mais ils sont comme chacun et chacune d'entre nous, faillibles, mais ils sont au bénéfice de cet Évangile. Et moi, j'aimerais simplement vous laisser sur cette invitation. Sachez simplement que, y compris parmi ceux qui sont les plus en vue dans l'Église, le groupe de responsables, nous sommes ni plus ni moins que des bénéficiaires de la grâce du Seigneur. Nous sommes des bénéficiaires de la grâce du Seigneur. Et si vous n'êtes pas bénéficiaire de cette grâce-là, venez nous voir, par pitié, venez nous voir. Parce que dans toutes les strates, si on peut considérer que l'Église est constituée de strates, vous ne trouverez dans l'Église et dans ses membres que des personnes qui sont au bénéfice de la grâce du Seigneur. Si vous n'êtes pas au bénéfice de cette grâce du Seigneur, s'il vous plaît, faites appel à elle, venez nous voir et on pourra en discuter. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous bénisse à travers la méditation, y compris cette semaine dans nos groupes de semaines où nous aurons l'occasion de prier ensemble pour ces choses. Amen.